Figitus, figitus, zombre capot.
Prenez une pincée d'infos anti-autoritaires.
On vous demande toute votre attention.
Une pincée de nouvelles de lutte.
Mais on serait de taille à lutter.
Un peu de zat. De grève. Du gaz de schiste.
De gisement, de gaz de schiste.
Du logement. Toi, du féminisme. Bon, bref, secouez le tout, transvasez dans une bouteille, bourrez-y un torchon imbibé d'essence et jetez-y en direction des forces oppressives.
Canu Info du vendredi.
Avec les membres du FMI et de l'Union européenne, accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Ils ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Alors, on a le droit de se marquer d'un sport en guerre. On aurait pu rajouter d'autres termes, hein, comme ras-le-bol de la pression, les menaces.
Ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève, tout simplement.
Ils ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Bonsoir, 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 il est 19h06 sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, son 2.2 FM, et c'est évidemment le Canu Info du vendredi. Un Canu Info du vendredi qui commencera ce soir avec une interview en direct avec une bibliothécaire lyonnaise en grève.
Et puis, on va beaucoup vous parler de répression dans ce Canu Info. On va d'abord rester au local et vous parler des arrestations qu'il y a eu cette semaine de personnes antifascistes.
Et puis, comme on réprime des militants un peu partout, on ira ensuite à Bure pour parler évidemment de militants antinucléaires qui ont aussi été condamnés.
La répression, ça se fait aussi au niveau du Conseil d'État qui a confirmé la dissolution du CCIF. On vous en parlera dans ce Canu Info.
Et puis, on vous parlera un peu d'international, puisqu'il y a un changement législatif européen qui favorise l'application partout de la reconnaissance faciale.
Et on terminera par notre traditionnel agenda.
Bonne écoute sur Radio Canu.
Ce que je veux,
Canu Info.
Vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République! Vive la France!
Les mouvements sociaux.
Mais notre règne arrivera quand votre règne finira.
Rien ni personne ne pourra étouffer une révolte.
Tu as semé la graine de la haine, donc tu la récoltes.
Les rebelles et les rebuts ont tous opté pour le boycott. Faisons en sorte que les aisés nous lèchent les bottes.
Et oui, dans les studios ce soir, on a la chance d'être avec Anouk, qui est contractuelle en bibliothèque et qui est aussi syndiquée à Sud, pour pouvoir faire un peu le bilan et comprendre qu'est-ce que c'est que cette grève dans les bibliothèques. Bonjour.
Bonjour.
Et bien peut-être pour commencer, voilà, qu'est-ce que c'est que cette grève dans les bibliothèques? Pourquoi est-ce que les bibliothèques aujourd'hui, en tout cas des membres des bibliothèques, sont en grève?
Alors, il y a plusieurs grèves dans les collectivités territoriales, donc il peut y avoir plusieurs choses qui se passent, parce qu'il y a aussi la réforme de la fonction publique, mais moi je suis surtout là, même si ça me touche aussi beaucoup, je suis surtout là pour parler du pass sanitaire en bibliothèque. Donc en fait, on se mobilise depuis la mi-août, la réouverture des bibliothèques de territoire, ce qu'on appelle bibliothèques de territoire, c'est les bibliothèques d'arrondissement hors Pardieu. Quand elles ont réouvert, après la semaine estivale traditionnelle de fermeture, on s'est retrouvé à devoir appliquer le pass sanitaire également dans ces petites bibliothèques-là, ce qui était le cas jusqu'à présent à Pardieu depuis un mois environ. Et donc ne plus avoir de jauge, la jauge à 49 qui nous permettait de faire entrer alors tout le monde, certes pour un temps limité quand il y avait un peu de monde, c'était pas très confortable bien sûr, mais ça nous permettait de faire entrer tout le monde sans distinction et sans filtrage à l'entrée. On avait juste quelqu'un qui comptait et qui pouvait un peu gérer les flux. Mais là, on passe sur un autre, on est passé sur un autre niveau qui est il faut montrer le pass sanitaire à l'entrée pour les plus de 18 ans. Et nous, on estime qu'en bibliothèque, on est dans des rares endroits aujourd'hui qui est de l'espace public, service public, gratuit, accessible à tous, où les gens peuvent se poser pour mille et une raisons. On n'est pas censé juger des usages qui sont faits. On peut juste vouloir être au calme, lire le journal, aller aux toilettes, regarder ses mails. Enfin, il y a 10 000, c'est pas juste emprunter des livres, la bibliothèque, il y a 10 000 usages qui en sont faits. Et tous les publics peuvent se croiser. Et on est globalement tous très attachés à cette idée d'accueil et d'accueil universel et de service public. Et donc, voilà, on se mobilise, on est beaucoup à être mobilisés depuis un mois maintenant, avec voilà, quelques bibliothèques qui ont été fermées et puis quelques rassemblements qui ont eu lieu une fois par semaine depuis un mois.
C'est, du coup, c'est ça concrètement, comment elle se met en place, cette grève au quotidien ?
Alors, dès le début, quand on a eu la première réunion qui nous a, avec le directeur, moi, j'étais présente parce que toute mon équipe était en vacances, donc il ne restait plus que moi pour y assister. On a senti qu'il y avait des résistances immédiates, que les responsables qui étaient là disaient que mon équipe ne va pas vouloir, ça va frotter, ça va résister. Et donc, assez vite, on a contacté les syndicats, on a alerté les syndicats pour leur dire il se passe ça. On avait vu qu'il y avait d'autres villes, notamment, ça avait commencé par Paris, parce qu'à Paris, dès juillet, en fait, ils n'avaient pas la jauge à 49, donc beaucoup de bibliothèques s'étaient mis en grève. Donc on s'est dit, faut qu'on se mobilise. Donc ça, là, ça a commencé par un préavis qui a été posé, un préavis qui était national, donc on pouvait faire grève assez vite. Et puis des réunions, et maintenant, on est resté sur une base de un rassemblement devant une bibliothèque différente chaque semaine, où on prend 2 heures pour se retrouver, pour discuter avec les usagers, tracter. Ça, c'est les grands temps forts. Après, nous, de manière individuelle, moi, je travaille dans le 6e arrondissement, et on peut faire des grèves perlées ou se mettre à deux pour tracter, que la bibliothèque soit ouverte ou fermée, tracter, expliquer aux usagers et aux usagères notre mouvement. Et voilà. Et puis, il y en a beaucoup qui nous soutiennent, donc ce qui fait toujours très plaisir.
Est-ce que concrètement, ça change quoi, ce contrôle du pass sanitaire en bibliothèque ?
Alors, on va dire que le principal, il est sur notre mission et notre éthique de bibliothécaire, qui est vraiment sur cet accueil universel et l'accès à la culture pour tous et toutes. Ensuite, il y a des considérations plus triviales, mais qui sont quand même importantes et qui pèsent sur les équipes, c'est que ça mobilise une personne en plus à l'entrée avec ce smartphone pour flasher les QR codes. Et on est déjà dans une situation... Alors moi, j'ai connu malheureusement la bibliothèque que en période Covid, donc je ne peux pas témoigner de comment c'était avant ce travail-là, mais on a connu des périodes où c'était des changements d'horaire incessants. C'était des réorganisations perpétuelles parce que voilà, un coup la quarantaine, un coup le click and collect, donc c'est assez lourd pour les équipes. Et arrive là-dessus ce poste en plus qui se dégage, qui est un poste en plus qui n'est pas du tout dans nos missions, donc forcément que personne n'est ravi de faire, et voilà, qui vient encore plus peser sur les équipes qui sont déjà un peu rincées après un an et demi de pandémie, comme tout le monde, hein. Ça, je blâme personne, c'est difficile pour tout le monde, mais voilà, donc ça a aussi posé problème, d'autant plus que c'est pas l'objet de la mobilisation, mais ça joue. Les agents eux-mêmes sont soumis pas à l'obligation vaccinale, mais à l'obligation de pass sanitaire. Donc on présente un pass à notre responsable, soit un certificat de vaccination, soit un pass. Et que donc, voilà, il y avait certains collègues qui n'étaient pas forcément à jour, qui donc ont dû s'organiser, faire le nécessaire. Et donc on a perdu aussi un petit peu des gens dans les équipes.
Et du coup, tu disais qu'il y avait des liens aussi, qu'il y avait des mobilisations dans d'autres types de collectivités territoriales, et que tu disais hors antenne que vous aviez la chance, vous, de pouvoir encore faire des grèves perlées.
Oui, alors ça, c'est... je ne sais pas comment ça se passe dans les autres villes. À Lyon, en ce moment, il y a un statut qui est quand même assez attaqué, assez remis en cause, c'est-à-dire qu'on veut augmenter le temps de travail. Je crois que là, les dernières nouvelles, c'était qu'il y avait une revalorisation des salaires qui était prévue. Mais c'était déjà pas bien élevé. Mais bon, c'est très bien. Mais il y a quand même cette augmentation du temps de travail, alors que les temps pleins, on est déjà à 37h30. Enfin, voilà. Et avec des réductions des jours de congé, qu'il y avait des jours de congé un peu exceptionnels. Bon, et surtout que ça vient attaquer en fait les professions les plus féminisées, les plus les cadres, les catégories C, Donc il y a ça d'un côté et une attaque du droit de grève, pas chez tout le monde, donc pas chez les bibliothécaires, mais je sais que notamment les cantinières maintenant, si elles font une heure de grève, c'est compté pour une journée, elles ne peuvent plus faire ce qu'elles faisaient avant. Il faut qu'elles préviennent 48 heures à l'avance. Enfin, voilà, clairement il y a une entrave par rapport à ce qui était possible avant. Qui vient se mettre là, donc c'est pour ça qu'il y a une mobilisation également à ce sujet. Nous, on a encore la chance de pouvoir faire une heure ou deux, ou la demi-journée ou la journée, et comme c'est une question qu'on m'a posée, j'en profite pour y répondre, lorsque nous sommes grèves, nous sommes déclarés comme grévistes et nous ne sommes pas payés. Je précise.
Pour l'instant, je crois que l'obligation du pass vaccinal, elle est pour les personnes majeures, mais ça va passer au 12-17, le 30 septembre, je crois. Comment ça va se passer dans les bibliothèques ?
Alors, au niveau national, nous, on était très inquiets jusqu'à hier. Au niveau national, tout le monde est très inquiet, à raison, puisque y a la population adolescente, c'est quand même une population qu'on essaye de toucher, mais qui aussi vient fréquenter les bibliothèques après l'école. C'est une population qui est importante pour nous, et donc on avait très très peur qu'elle ne puisse plus venir. Il se trouverait qu'à Lyon, d'après les dernières informations officielles qui nous ont été communiquées, on est très content, même s'il faudrait que ça soit comme ça dans toute la France et même qu'on arrête le pass sanitaire en bibliothèque, mais on est très content d'annoncer qu'a priori, le directeur de la bibliothèque, en concertation avec les élus locaux, ont interprété les textes de loi en tirant un petit peu l'exception pour l'éducation et la recherche et la formation, parce que jusqu'à présent, un chercheur pouvait aller à la bibliothèque de la Part-Dieu sans passe sanitaire. Ça, c'était possible. Tout comme les bibliothèques universitaires ne sont pas soumises au passe sanitaire. Donc, il y avait deux poids, deux mesures. Et ils ont un peu bricolé, ils se sont dit, finalement, de 12 à 18 ans, et les étudiants, même sans être chercheurs, sont dans cette formation, sont dans cette obligation de scolarité ou dans des études supérieures. Et donc, on peut acter qu'ils rentrent dans ce cadre et que donc on n'a pas besoin de demander le pass. Donc aujourd'hui, à partir du 1er octobre, si vous avez entre 12 et 17 ans, vous dites simplement j'ai entre 12 et 17 ans. On ne demandera pas de toute façon de carte d'identité à l'entrée des bibliothèques. Les premiers jours, c'était pas très clair. Donc effectivement, c'est arrivé un peu à la Part-Dieu parce que les consignes n'étaient pas encore très claires. Mais maintenant, en tout cas, c'est sûr, on ne vous demande pas votre carte d'identité. Et à partir de 18 ans, si vous êtes étudiant, vous présentez votre carte d'étudiant, ça suffit. Et donc ça, c'est grâce au soutien quand même, à la direction qui s'est un peu démenée dans ce sens, avec les élus locaux qui eux-mêmes ont compris, ont reçu les organisations syndicales, ont parlé beaucoup avec les bibliothécaires, ont écrit au préfet pour demander l'exception des bibliothèques, et du coup, ça sont quand même pas insensibles au combat qu'on mène, donc c'est toujours bien de le dire quand c'est qu'il y a des choses bien.
Et du coup, ça, c'est quelque chose qui a réussi à être négocié à Lyon. Est-ce que ce mouvement-là, il est national aussi ? Est-ce que tu as des échos, d'ailleurs, des bibliothèques, de comment est-ce que le mouvement pourrait gagner des choses ?
Alors, sur cette exception-là, pour l'instant, vu que c'est très, très récent, je n'ai d'informations que sur Lyon. Sur la question du mouvement national, je peux citer... Bon, j'ai déjà cité Paris. Je sais qu'il y a Toulouse, Albi, Brest, qui sont pas mal démenés. On a vu aussi des articles sur Grenoble. Grenoble, carrément, je crois qu'ils ont refusé d'appliquer le pass et que ils étaient prêts. Comme il y a une directrice aussi qui a été mise à pied, je sais plus où malheureusement, mais qui a dit on n'appliquera pas le pass et qui a été mise à pied puisque c'est la loi et qu'on est tenu de l'appliquer. Mais il y a des mobilisations partout en France. Je ne sais pas à quel point on peut obtenir plus que ce que nous on a obtenu à Lyon dans la mesure où c'est un décret gouvernemental. Et que même les préfectures au niveau régional ne peuvent pas vraiment aller au-delà de ce décret. Donc il faut vraiment que ça bouge au niveau du gouvernement et que le ministère de la Culture et le gouvernement se mettent vraiment d'accord sur cette exception à apporter aux bibliothèques.
Non, je comprends bien. Et du coup, vous, qu'est-ce que vous espérez de votre mouvement ?
On espère que cette exception soit reconnue, c'est-à-dire qu'on nous annonce que finalement, ce n'était pas une bonne idée, les bibliothèques, ça va. Donc, à la base, on se disait revenir à une jauge à 49 pour permettre que, voilà, en toute sécurité, on revienne à ce qu'on faisait avant, qui a priori marchait, hein, puisqu'on n'a pas vraiment eu de cas signalés de contamination en bibliothèque. Donc, si on voit que la situation évolue, peut-être que cette jauge, elle peut augmenter aussi en fonction des évolutions. Mais en tout cas, ne plus filtrer à l'entrée les gens, tout simplement. Enfin, si on doit mettre un quota de personnes, une jauge, on mettra. Mais voilà. Donc c'est principalement ça. Après, comme on sait que nos mobilisations, elles sont municipales et que ça se décide au niveau du gouvernement, on est aussi mobilisés pour montrer aux usagers, aux usagères, que on les abandonne pas, enfin qu'on trouve pas ça normal, que on lâche pas l'affaire et que on refuse d'accepter cette surveillance et ce filtrage à l'entrée, et que c'est pas normal. Enfin, c'est l'idée de pas normaliser ces pratiques là dans un lieu aussi sacré que la bibliothèque, enfin sacré mais au sens où il est ouvert à tous, voilà, qu'il doit le rester.
Est-ce qu'il y a des gens qui ont demandé, par exemple, un click and collect, enfin d'autres stratégies pour avoir accès à la bibliothèque sans passe ?
Alors, ça a été demandé. Le problème, nous, ce qu'on peut faire aujourd'hui dans les bibliothèques de Car... Alors déjà, les gens peuvent récupérer leurs réservations s'ils ont des réservations. Ouais, c'est pour ceux qui connaissent le principe des bibliothèques. Vous avez droit à des réservations si les documents sont empruntés. Vous pouvez vous présenter à l'entrée et donner votre carte et on vous ramène vos livres. Ça, c'est possible partout. Ce qu'on peut faire aussi dans les petites bibliothèques, c'est vous appeler avant, on vous met un livre de côté, et sur le même principe, vous amenez votre carte, un livre, un DVD, peu importe, vous amenez votre carte, on vous l'emprunte. Donc on essaye quand même de se démener, ça passe tant qu'on n'est pas trop surchargé à courir dans tous les sens, parce qu'il n'y a pas vraiment de poste dédié à ça, mais voilà, on essaye quand même de se démener pour que ça reste accessible. Le problème du click and collect quand on l'a mis en place, c'est que c'est toute une ça demande de changer tous les logiciels, enfin toute la manière de fonctionner, que donc soit on fait que du click and collect, enfin pour nous, pour la taille du réseau, soit on continue à accueillir les gens, mais le mélange des deux, aujourd'hui on n'est pas vraiment équipé pour, enfin c'est un peu compliqué. Après, je sais qu'il y a d'autres bibliothèques qui est soit en grève, soit qui ont essayé de trouver d'autres solutions, qui ont trouvé des choses super, hein, comme faire des bibliothèques hors les murs, où les gens, bah, on a simplement une table et les gens amènent leurs vieux bouquins, vont en récupérer des nouveaux. Voilà, il y a des choses qui sont possibles en dehors des bibliothèques. Après, voilà, nous, il y a quand même voilà, tout le travail à faire tourner derrière. Il y a quand même des gens qui continuent à venir et qui rentrent, heureusement, quand même. Donc voilà, c'est un peu dur à mettre en place quand on est aussi sollicité par ailleurs par le fonctionnement habituel.
Et alors, deux questions. Comment vous vous mobilisez concrètement ? Du coup, est-ce que vous faites des rassemblements, tout ça ? Et comment des personnes, elles peuvent soutenir votre mouvement ?
Alors, excellente question, merci de l'avoir posée. Nous avons notamment un rassemblement, bon, comme je vous disais, les rassemblements hebdomadaires. Il y en a un demain matin, samedi, donc, devant la médiathèque du Bachu. On essaye de tourner, on a fait La Cassagne, on a fait Jean Massé, on a fait Pardieu... on a fait la Croix-Rousse, et voilà, ce sera le cinquième rassemblement. Donc entre 10h et midi, les gens peuvent, si vous êtes dans le quartier notamment, hein, vous pouvez passer, soutenir. Je sais pas si je pense que la médiathèque sera pour autant ouverte. Enfin, ça dépend, en fait, on peut pas savoir, c'est vraiment le matin même qu'on sait le nombre de grévistes. Mais voilà, on sera là pour tracter, on peut discuter. Donc ça peut être venir en rassemblement. Vous pouvez également écrire à votre bibliothèque de quartier. Nous, je sais qu'on a reçu un ou deux mails d'usagers qui soutiennent le mouvement. Et bon, c'est vrai que quand on est en grève depuis longtemps, comme on l'est un mois, alors moi, j'ai pas fait un mois plein, hein, mais bon, ça dure quand même un peu. Ça fait quand même plaisir d'avoir des gens qui vous encouragent et qui vous soutiennent. Et pas que des gens qui, des fois, nous râlent un peu dessus parce que, oh là là, la fonction publique est toujours en grève. Sinon, il y a une pétition en ligne qui n'est pas locale, mais qui est une pétition nationale. Alors, que je peux dire, c'est toujours un peu relou de dire des liens à l'oral, mais bon, j'ai fait un lien raccourci, donc normalement, il marche. lstemy.me/petition-bib. Sinon, vous faites change.org et puis vous cherchez bibliothèque accessible à tous, vous la trouvez. Donc toujours, bon, ça mange pas de pain, hein, les pétitions. Je sais pas si ça change grand-chose, mais en tout cas, ça coûte pas beaucoup. Et puis sinon, on s'est dit que comme c'était une question qui était politique, vous pouvez écrire aux élus. Alors, le contact des élus, on le trouve, on trouve les députés assez facilement sur Internet. Hein, donc, nous, on a localement, on a Thomas Rudigoz de LREM, Hubert Julien Laferrière de EELV et Jean-Louis Touraine et Anne Bruniera de LREM. Donc voilà, vous pouvez toujours contacter les députés ou vos maires d'arrondissement, vos adjoints à la culture d'arrondissement, toujours pour signifier que cette cause vous touche et que l'accès à la culture pour tous et toutes vous touche particulièrement.
Et est-ce qu'il y a un endroit sur Internet où on pourrait suivre votre mouvement si on cherche des informations ?
Rébellion peut-être. Enfin, c'est pas voilà, on a plutôt on fonctionne par communiqué de presse. Donc je sais qu'il y a des articles dans le Progrès. Voilà, il n'y a pas vraiment de localement en tout cas. J'ai pas connaissance d'une page qui récapitule tout ça. Mais en général, les infos sont quand même relayées quand il y a des mobilisations ou des temps forts. Elles peuvent être relayées comme ça.
Et j'imagine qu'on pourra vous trouver dans la manifestation du 5 octobre, par exemple. Manifestation intersyndicale, si on a envie de vous rencontrer au-delà des rassemblements.
Oui, alors pour l'instant on n'a pas de banderole, donc je ne sais pas comment vous arriverez à nous repérer. Tout est très compliqué. Mais on a également une journée de, Sud Collectivité Territoriale, la Fédération appelle à une journée nationale pour les bibliothèques le 1er octobre. Donc il est possible qu'on y participe aussi et que ça se passe du côté de Pardieu, mais on n'a pas encore défini exactement les horaires. Et effectivement, la suivante, le grand rendez-vous, ce sera le 5 octobre dans cette grande journée. Donc ça, je crois que c'est 11h à la manufacture des tabacs, parce que j'ai regardé hier. Donc la grande journée interpro, intersyndicale de lutte contre tout, et pourquoi pas contre ça également.
Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais rajouter ?
Non, je crois pas. Merci beaucoup de m'avoir invité en tout cas.
Merci beaucoup d'être passé. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir ces discours-là de justement d'accès aux services publics. Merci.
Dans un temps de dématérialisation de tous les services, c'est vrai que les bibliothèques, on est un peu le dernier radeau pour plein de gens. Et notamment, on pense qu'on veut de la vaccination, mais on est un endroit pour s'informer, pour prendre ses rendez-vous, pour discuter de ça aussi. On a un endroit qui peut servir d'accès à cette chose-là, puisque a priori, c'était quand même l'idée derrière le pass sanitaire, c'était plus la vaccination. Donc voilà, on peut être un allié là-dedans et pas juste... un obstacle à franchir pour...
Merci beaucoup.
Reportage sur le rassemblement qui a eu lieu à Lyon cette semaine.
Du Rouennais de la région qui s'appelle Stéphane Boulet.
En région lyonnaise, plus précisément à Pierre-Bénite.
Pour savoir où est-ce qu'on en est, la lutte des instits à Voix-en-Velin. Petit
reportage sur la grève qu'on a dit à les intergences pendant la masse du rassemblement pour le Rouennais. Par le
Canut Info du vendredi. Rubrique locale.
Et dans la rubrique locale, malheureusement, aujourd'hui, de mauvaises nouvelles, des nouvelles de répression du milieu antifasciste autonome lyonnais, puisque mardi, donc le 21 septembre, la police a procédé à une dizaine d'arrestations et de mises en garde à vue d'antifascistes lyonnais. Des arrestations qui font suite aux attaques de l'extrême droite sur les cortèges anti-pass sanitaires, qui avaient notamment été filmés par des caméras de vidéosurveillance et par des passants. Alors que les groupuscules d'extrême droite tentent de gagner du terrain dans le mouvement actuel de contestation sociale, l'État s'attaque une fois de plus aux forces progressistes. Et un rassemblement de soutien a déjà eu lieu hier devant le tribunal de grande instance de Lyon, alors que 7 camarades passaient devant le procureur et devant le juge des libertés. Et malheureusement, 4 d'entre eux ont été écroués dès hier soir. La poursuite, évidemment, elle est strictement politique et particulièrement raciste, puisque le procureur de la République s'est saisi lui-même. En fait, il n'y a pas de plaignant, donc il n'y a pas de faf qui est venu râler de cet fait d'avoir tapé sur la tronche des camarades, notamment. Et donc, du coup, c'est le procureur qui y va, évidemment. Il soutient un peu ses petits camarades. Il s'est basé, le procureur, sur une vague vidéosurveillance où on voit des antifascistes en venir aux mains avec des militants d'extrême droite du groupuscule Cato intégré Civitas. Et donc les camarades écroués passeront en comparution immédiate dans un mois, le 4 novembre. Évidemment, notre colère est immense, il faudra les soutenir. Ils ont poussé le vice, on le note quand même jusqu'au bout, puisque 4 personnes qui ont été écrouées, eh bien l'une d'elles est dans une prison différente, en fait isolée finalement. Les élections présidentielles, on le sait, se déroulent dans un climat où le fascisme déjà bien installé n'en demeure pas moins toujours conquérant. On vous tiendra au courant de ce qui va se passer. Évidemment, soutien absolu aux camarades écroués.
Canut Info du vendredi.
car tu m'es cher, je ne compte pas, je ne compte plus. Comme tu m'éclaires, au nucléaire, j'ai le ciel bleu. Tu me ramènes quand je déraille un jour sur deux.
Radio Canu 102.2.
Et oui, on est dans la rubrique nucléaire, mais malheureusement, on est aussi toujours dans la rubrique répression. On avait envie là de revenir sur le procès de Bure, puisque cette semaine, deux militants antinucléaires ont été condamnés à de la prison ferme. Donc c'était des militants antinucléaires opposés au projet d'enfouissement de déchets radioactifs Cigéo, donc à Bure dans la Meuse, qui ont été condamnés ce mardi 21 septembre à des peines de prison allant de 6 mois avec sursis à 12 mois ferme, en raison d'une manifestation non déclarée. Oui, vous avez bien compris, en raison d'une manifestation non déclarée, comme il en existe des dizaines par an, des personnes ont pris jusqu'à un an ferme. On avait envie de revenir un peu sur cette instruction, parce qu'elle est assez éclairante sur le fait que la justice est, comme on l'a vu précédemment, éminemment politique. L'instruction, elle avait commencé à la suite de l'incendie de l'hôtel-restaurant de Bain-d'Œil à Bure, en juin 2017. Des personnes avaient mis le feu dans ce lieu connu pour héberger du personnel de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Je le redirai peut-être pas, mais c'est l'ANDRA, donc en charge du projet Cigéo. Le juge d'instruction avait ensuite ajouté au dossier la dégradation en février 2017 de l'écothèque de l'ANDRA, un bâtiment où l'agence conserve des échantillons de l'environnement, et une manifestation non déclarée qui s'était déroulée le 15 août 2017. L'enquête n'ayant pas permis de déterminer les responsables de l'incendie de l'hôtel-restaurant et de la dégradation de l'écothèque, un non-lieu avait été rendu sur ces deux affaires le 8 avril 2020. Après une enquête de plus de 3 ans, qui a coûté 1 million d'euros à l'État, les 7 prévenus ont donc été jugés du 1er au 3 juin 2021 sur l'unique base d'une manifestation non déclarée. Les prévenus étaient tous poursuivis pour association de malfaiteurs en bande organisée. Et c'est cette accusation qui est complètement tombée pour tout le monde. Et selon les cas, pour organisation d'une manifestation non déclarée, attroupement après sommation de dispersion, dégradation et vol en réunion, et détention d'éléments entrant dans la composition d'engins incendiaires. Le tribunal de Bar-le-Duc a condamné au cas par cas les activistes selon leur degré d'implication dans la manifestation du 15 août 2017. Mais comme je vous l'ai dit, il a relaxé les 7 militants pour l'accusation d'association de malfaiteurs. Mais en fait, c'est quand même bien cette accusation qui avait permis le début de l'enquête. Dans un communiqué de presse, les avocats des prévenus ont estimé que l'accusation n'avait été qu'un prétexte pour réprimer le mouvement antinucléaire d'opposition à Cigéo, pour les écouter, les perquisitionner, les surveiller, les contrôler et les éloigner de la Meuse et de la Haute-Marne. La relaxe pour association de malfaiteurs confirme que depuis 4 ans, l'opposition au projet Cigéo à Bure subit un harcèlement policier et judiciaire arbitraire dont l'ampleur traduit l'acharnement politique. Depuis 2017, des dizaines de personnes ont été placées sur écoute. Plus de 1000 discussions ont été retranscrites, des dizaines de milliers de messages récupérés. Au total, les forces de l'ordre ont intercepté plus de 15 ans de temps cumulé de conversations téléphoniques. Un dispositif possible lorsqu'on enquête sur une association de malfaiteurs, mais pas sur l'organisation d'une manifestation non déclarée ou l'attroupement après sommation de dispersion. La loi fait interdiction aux procureurs et juges d'instruction d'enquêter sur ces délits en recourant aux écoutes téléphoniques. C'est pourtant ce qui s'est passé sous couvert d'une association de malfaiteurs qui n'existait que dans l'esprit du procureur de la République et du magistrat instructeur. En outre, sur la base de cette accusation, les activistes ont eu l'interdiction de se voir et de se parler pendant plus de 2 ans. Si l'association de malfaiteurs s'est effondrée et que ce chef d'accusation était abandonné pour l'ensemble des mises en examen, les camarades ont écopé des peines de prison ferme ou avec du sursis. Ces peines sont absolument disproportionnées avec les charges qu'ils subissent, en particulier la participation et l'organisation supposée à la manif, qui avait d'ailleurs été lourdement réprimée. Il y avait eu quand même 320 grenades lacrymogènes et 37 GLIF-4 qui ont été tirées ce jour-là dans les champs autour de Bure, devenu le temps d'une marche, le théâtre d'une véritable scène de guerre, durant laquelle des manifestants et des manifestantes ont été blessés, l'un d'entre eux mutilé au pied. 9 mois de prison ferme pour avoir participé à une manifestation non déclarée, mais pas interdite pour autant, comme il en existe des centaines en France chaque année, du jamais vu encore dans ce pays. Comment expliquer la disproportion avec le dérisoire des faits reprochés ? S'agirait-il d'une solution sortie in extremis du chapeau du tribunal de Bar-le-Duc pour faire oublier une partialité outrancière du procureur et la débauche de moyens utilisés pour l'enquête titanesque du juge d'instruction ? Pour semer la confusion et ne pas avoir à reconnaître que finalement, les opposants à Cigéo n'étaient donc pas des malfaiteurs. C'est un peu voilà, les deux visages de se délibérer. Derrière une réelle victoire, l'association de malfaiteurs de Bure est tombée, un verdict extrêmement sévère pour des broutilles. L'instruction judiciaire était politique, le délibéré l'est tout autant, et il est d'ores et déjà certain que des appels seront formulés dans les jours à venir pour riposter.
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a, d'un côté, un nouveau totalitarisme, et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Et au niveau national, on avait envie de vous parler d'une petite validation par le Conseil d'État. Vous savez, parfois, il y a des dissolutions d'associations et c'est au Conseil d'État de valider ou non cette dissolution. Et il se trouve que le 19 novembre 2020, c'est le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, qui avait été dissous administrativement sous décision du ministère de l'Intérieur. Et du coup, le Conseil d'État devait valider ou non cette décision. Il l'a validée aujourd'hui. C'est un peu sans surprise qui valide la dissolution politique du collectif contre l'islamophobie en France, qui est l'une des plus importantes associations sur ces questions-là et une association visible qui lutte contre l'islamophobie et qui dénonce notamment le racisme d'État, qu'on va vous lire un petit bout de leur communiqué. Le Conseil d'État vient de confirmer la décision du ministère de l'Intérieur français du 19 novembre 2020 de dissoudre administrativement le CCIF, organisme de défense des droits qui soutenait juridiquement chaque année des milliers de personnes victimes d'islamophobie en France. Cette décision marque un tournant majeur dans l'institutionnalisation de l'arbitraire politique et répressif en France. Nous exprimons notre inquiétude profonde à l'égard d'une décision ouvrant la voie vers le délit d'opinion, désormais porté par la plus haute juridiction administrative en France. Les motifs avancés par la décision du Conseil d'État contre le CCIF constituent une attaque directe au cœur de son travail en tant qu'organisme de défense des droits de la personne, à savoir le plaidoyer en direction des gouvernements et des institutions. Le Conseil d'État a en effet estimé, à la suite d'une audience qui n'aura duré que 10 minutes, que le seul et principal grief à retenir contre le CCIF est sa définition de l'islamophobie, notamment institutionnelle. Tous les autres griefs reprochés par le ministère de l'Intérieur, en particulier celui de l'apologie au terrorisme, ont été balayés. Il est directement reproché au CCIF de dénoncer l'islamophobie de certaines institutions publiques et du corps social. Pour le Conseil d'État, cela constituerait en soi de l'incitation à la haine qui dépasserait le cadre de la protection de la liberté d'expression. Pourtant, en 17 ans d'exercice, jamais le CCIF n'avait été ni poursuivi ni condamné. Le rendu de la décision du Conseil d'État est ahurissant, alors où nombre de chercheurs font avancer les recherches et les évidences scientifiques au sujet du racisme systémique, réalité sociologique largement établie. La France a fait le choix non seulement d'ignorer les multiples avis pointant du doigt ses politiques hostiles et discriminatoires à l'égard de sa composante musulmane, mais en plus de cela, de les criminaliser de façon totalement arbitraire, sans aucun contrôle de la charge et de la preuve. Cette décision symbolise un point de bascule dans la dérive administrative du gouvernement français, qui se dit pourtant chantre de la liberté d'expression et de l'état de droit. Nous sommes extrêmement inquiets des répercussions que de telles dérives peuvent engendrer au niveau européen. Donc c'est toujours le CCIF qui parle. Nous appelons les autorités européennes à faire désormais preuve de lucidité et de courage politique pour dénoncer les multiples atteintes à l'état de droit commis par la France. Si le Conseil d'État, plus haute juridiction administrative en France, a été en mesure de valider une telle décision, alors c'est à nous tous, collectivement, de nous constituer comme garde-fous pour lutter, partout où nous le pouvons, contre ces dérives. Et voilà, pour rappeler que l'État utilise bien toutes ses armes, que ce soit arrêter arbitrairement des militants ou dissoudre des institutions pour continuer à imposer son racisme et son islamophobie.
Nous vivons une époque formidable et on écoute quand même un petit peu de musique.
Avant de me demander une fellation, mon fric c'est mon salaire, pas les primes de délation.
S'ils voulaient s'amuser, ils auraient dû embaucher Titoff. Je me vois dans un bureau de la hiérarchie avec une Kalachnikov. Le travail c'est la santé, c'est pour plaisanter. Je fais des rêves enchantés où mes employeurs finissent édentés. J'ai pas signé pour qu'on soit potes. Je prends pas de risques, écoute. Tu sais très bien ce qu'il arrive parfois. Trou de balle des petits boy scouts. Je sais pas être tant enlevé. T'as eu Dieu donné, tu voulais fabriquer ces bruits. Ça te fait tellement chier que t'en as de la merde qui sort veilleuse. Non, les différences ne s'arrêtent pas à la pointeuse. Les règles non dites honteuses veulent me changer en poule bondeuse. Pas besoin d'être au fond d'une mine à pousser les wagonnets. Mais si tu veux mettre des barésies, alors je remplirai un barillet. Allez-y postuler, c'est le travail qui libère les hommes. Candidat au suicide, chez Orange, Renault, France Télécom. Nadine, l'atelier c'est ton mari. Laisse pas couler tes larmes dans la salle de repli. Tu feras des heures sup si tu salis. Quand le démon prend l'apparence d'une fin de mission, acculé l'exorciste pratique une séance de soumission. Les poignées de main qui furent chaleureuses refroidissent face aux ambitions dévoreuses. Rien n'est plus dangereux que la route du poste qu'un collègue convoite. Tu fais quoi toi? Moi ce soir, je brûlerai ma boîte.
Que c'est tour, c'est le point de nos retours. Je crois qu'il a tout dit. Comment tu veux que j'épargne? Je suis dans le rachat de crédit. Et cette année, oui, j'ai fait plus d'enterrements que de boîtes de nuit. Je me dis que c'est les petits détails qui font les gros ennuis. Alors je fais des rêves qui donnent la trique, car il n'y a pas de fin. Et que ça va plus loin, toucher un cul ou un dauphin. Enfin, on en revient toujours au même, le bif. Moi, pour oublier tout ça ce soir, je me brûle un spiff.
Baby, baby. maintenant?
Devine. Mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda!
Et c'est effectivement déjà l'agenda sur le Canu Info du vendredi. Vous venez d'écouter un peu plus de musique que d'habitude puisqu'on a passé successivement à Social Club, Ce soir je brûlerai et Awa, Habib Galbi. On espère en réalité, pour rien vous cacher, qu'un de nos camarades qui est actuellement en train de se battre contre l'espace qui le sépare de la radio va arriver pour la dernière rubrique internationale et on perturbe un petit peu l'ordre habituel pour vous faire l'agenda tout de suite. Alors, déjà, vous ne devriez pas être en train de nous écouter, puisque ce soir, c'est la soirée de rentrée à La Plume Noire, depuis 18h. La Plume Noire, c'est évidemment quelque part en dessous de la place Colbert, genre entre le 8 et le 15 rue Diderot, j'ai pas noté l'adresse. Vous trouverez ça facilement dans les pentes de la Croix-Rousse. Et donc, ce sera l'occasion, si vous y allez, de vous présenter le fonctionnement de la librairie La Plume Noire, les différentes activités qui projettent les personnes qui organisent, les liens avec l'Union communiste libertaire, dont les membres autogèrent le lieu, et la façon dont vous pouvez vous investir, si vous le souhaitez, à la librairie et ou éventuellement à l'UCL, donc l'Union communiste libertaire. Ce sera aussi l'occasion pour nous toutes et tous, écrivent-ils et elles, de réaffirmer notre volonté de faire vivre ce lieu, un espace qui se veut de rencontres, de discussions, de débats, d'élaboration d'actions militantes, mais aussi et surtout de diffusion de livres et de revues en opposition à la pensée dominante, tout en permettant la plus large diffusion d'ouvrages concernant le mouvement libertaire, donc notamment évidemment son histoire, il y a beaucoup de bouquins sur Mai 36, son idéologie, l'actualité des combats menés par les anarchistes actuellement, et aussi les luttes antiracistes et antifascistes, les questions antisexistes, écologistes, syndicalistes, et tout autre combat s'inscrivant dans la constitution d'un mouvement social émancipateur. Tout ça, évidemment, vous pouvez toujours vous y rendre dès maintenant, se fera autour d'un verre et en écoutant un peu de musique. Et comme La Plume Noire est sympathique, vos enfants sont les bienvenus, puisque c'est un espace est organisé au sein de la librairie, avec notamment une sélection de coloriage antisexiste et quelques jeux à disposition. Évidemment, la soirée se passera dans le respect des règles sanitaires, port du masque à l'intérieur, masque et gel à disposition, et dans le respect de toutes et tous. Vous pouvez vous y rendre donc aux environs de la place Colbert, dans les pentes de la Croix-Rousse. Si, en revanche, vous avez envie de chanter et de vous rendre dans le 7e arrondissement, ça se passe à partir de lundi, puisque c'est la reprise de la chorale des Canulars tous les lundis soirs. Donc la chorale des Canulars, c'est un endroit où on peut apprendre des chants de lutte de toutes époques, de tout pays, pour chanter en soutien des squats, pour chanter en manif, pour se faire plaisir à mélanger votre voix dans la bonne humeur. Nos répétitions sont ouvertes, écrivit Tétel à toutes et tous. Pas de casting a priori, donc même si vous chantez comme moi extrêmement faux, vous pouvez vous y rendre. Juste partager nos indignations contre toutes les dominations et envie de chanter des chants populaires, féministes, écolos, antimilitaristes, anti-flics, anti-tout. Donc c'est tous les lundis à partir de 19h30 à l'atelier des Canulars, et ça on a l'adresse, c'est 91 rue Montesquieu dans le 7e arrondissement à La Guille. Et puis, on conclut ce petit agenda avec un rassemblement qui se tient à Lyon, comme un peu partout en France et en Europe, et même encore plus dans le monde, le mardi 28 septembre, pour le droit à l'avortement. Je vais vous lire le communiqué. Aujourd'hui, le droit à l'avortement au sein de l'Europe relève de la compétence de chaque État. Il est interdit à Malte, il est sous haute contrainte en Irlande, en Hongrie et en Pologne. Le droit à l'avortement, même légalisé, peut ou pourrait être remis en question par le maintien de la clause de conscience des médecins, par exemple en Italie, l'absence de structures hospitalières adéquates pour pratiquer des avortements, notamment en Grèce, mais aussi en Bavière, en Allemagne, les restrictions de personnel et les suppressions des centres pratiquant l'avortement lors de restructurations hospitalières, et ça on peut le voir en France et dans tous les pays, eh bien, par l'élection de gouvernements réactionnaires, conservateurs et rétrogrades, qui évidemment se battent contre l'avortement. Les femmes ont eu des difficultés pour avorter durant la crise sanitaire. Il y a eu des augmentations de délais, pas de place dans les blocs opératoires, renvoi dans les structures privées. Elles ont été soumises à encore plus de violences, ont dû parfois renoncer à avorter ou, pour celles ayant dépassé les délais légaux, tenter avec ou sans succès, malheureusement parfois, d'aller dans des pays où les délais sont moins stricts qu'en France. Face à cette éternelle débrouille des femmes, la proposition de loi demandant l'allongement des délais de 2 semaines, la suppression de la double clause de conscience, ainsi que la possibilité pour les sages-femmes de pratiquer les IVG a été arrêtée dans son parcours parlementaire par une stratégie délibérée et rétrograde d'obstruction. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement en place agit comme le pire des trucs réac, évidemment. Et pendant ce temps, les anti-choix et l'extrême droite agissent à grand renfort de communication et de moyens financiers importants en France, en Europe, aux États-Unis. On les voit à l'œuvre en Pologne, en Slovénie, en Hongrie, en Italie, à Malte et dans certains États aux États-Unis aussi. C'est le cas du Texas qui a interdit récemment d'avorter après 6 semaines de grossesse, même en cas de viol ou d'inceste. Ils attaquent ou restreignent les droits des femmes, notamment l'avortement et la contraception, font reculer l'éducation à la sexualité dans les établissements scolaires. Et en France, ils attaquent aussi des locaux physiquement, les locaux de plusieurs plannings familiaux. Ça a été le cas à Nantes, à Strasbourg et à Paris. Le rassemblement de mardi a pour objectif de réaffirmer que l'accès à l'avortement est un droit, que l'avortement est un choix personnel. Mon corps m'appartient, je choisis ma vie. Nous voulons notamment, écrivent les autrices de l'appel, des moyens financiers pour les centres pratiquant l'avortement et les centres de planification, une harmonisation des délais légaux pour avorter sur ceux des pays les plus progressistes et des pénalisations de l'avortement, donc en gros un alignement vers le progressisme de la législation partout, un choix dans la méthode utilisée pour avorter, donc un choix pour le coup technologique, que les personnes pourraient décider, la suppression de la double clause de conscience des professionnels de santé qui peuvent refuser d'aider ou de pratiquer des avortements, des campagnes d'information positives sur le droit à l'avortement et que l'éducation à la sexualité soit prodiguée à toutes et tous. Si, comme nous, vous êtes d'accord avec ces mots d'ordre, vous pouvez vous rendre au rassemblement du 28 septembre, donc c'est mardi soir, contre tous les réactionnaires et pour le droit à l'avortement, donc sous le slogan évidemment « Nos corps, nos choix ». Le rendez-vous est à 18h, place Jean Massé, c'est dans le 7e arrondissement de Lyon, et est proposé de venir avec un code couleur d'habillement violet et vert, et d'apporter, si vous le souhaitez aussi, des cintres pour participer à une exposition participative.
Et on peut quand même rappeler que demain, à partir de 10h, il y a un rassemblement devant la bibliothèque du Bachu pour lutter du coup contre le pass sanitaire en bibliothèque. Et on garde nos oreilles attentives pour la mobilisation du 1er octobre. Le 1er octobre, c'est...
Un vendredi. Ce sera probablement l'après-midi à partir de 15h à Pardieu.
Voilà, on vous repasse un tout petit peu de musique parce qu'on a encore un micro-espoir que notre camarade arrive. Et puis on vous retrouve ensuite soit pour cette rubrique internationale, soit peut-être pour se dire bonsoir.
Mike Tyson, Kus D'Amato, Marvin Hagler, Mohamed Ali, Battling Siki, Joe Louis, Max Moko, Brice Faradji, Ahmed El Moussa, oui. L-U-T-T-E, j'ai jamais été eux. Qu'ils aillent tous faire têter les yeux dans le miroir et mon adversaire. Darkness totale, matière noire. Même si tu m'écoutes deux jours, il va faire noir. J'emprisonne ma rage avec un petit fermoir. Plus proche de la folie que du désespoir. Louis Ferdinand Célinien, si je me laisse aller, oui, je veux aller au bout du jour, pas au bout de la nuit. Des geysers de gerbes, j'en ai partout sur mes jambes. Beige, 30 berges, déjà marre, trop de gamberges. Trop proche de la dèche, précaré la vocation. Mais trop fier pour faire de la lèche, prendre la dotation. Dans ton derche, ta marque et ta mèche. T'as toujours la queue en feu, on devrait taper ça la mèche. Alors c'est ça les gens, vous m'avez pris pour un de ces mecs. C'est aussi absurde que je reste sur la vie de la mec. Wesh, wesh alors comme Joule. Tu crois que je me rabats pour un contrat qui me double. Double ta somme, multiplie-la par 10. C'est du 10, si c'est donc plus que des disques. Demande-lui, demande à Coca. Moi je décode la vie, je fais pas de code barre. Vrai et la pilule rouge, faux c'est la bleue. Je suis limité donc imité, je change les deux. Tu connais l'inspecteur, je peux toujours verbaliser. Abus d'autotune, le rap s'est fait robotiser. Frérot tu t'es pas converti, tu t'es fait rebaptiser. Bravo pour ta chicha et ton espace privatisé. Je préfère l'Olympia, je peux pas rivaliser. D'autres préfèrent l'Arena, je peux pas encore rivaliser. Ça fait L, U, T, T, E. J'ai jamais été eux. Qu'ils aillent tous faire têter les yeux dans le miroir et mon adversaire. Ma lutte est sénégalaise. Je leur laisse la gréco-romaine. Font du rap corps à corps nu dans la terre glaise. Chacun son délire, chacun son domaine. Ma boxe est gitane. On prend pas de potions, on fume pas de gauloise. La foi est vitale, on fait attention car la vie est sournoise. Pugiliste, fuck les nihilistes. Tant qu'à faire fuck tous les mots en is plus. Puisque bestial mais qu'on me distingue bien. Je me mets en beast mode quand sonne la discorde. Quand faut y aller, on libère le kraken. Politesse, protocole, le vernis kraken.
Tu sais qui t'es quand t'es face à la mort. Éternel respect pour tous les combattants du globe. Plus samouraï que soldat, je fais pas du rap calibré, je fais du rap martial, Sun Tzu, Lao Tzu, Schopenhauer, Musashi, I got the power. Esquive à la perle de Louis Taker, jab, 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 Woody Woodpecker. Bras arrière, boum, marteau piqueur, plexus ou foie, c'est la bec qui pique. Je fais de la boxe, ils font de la muscu, je suis dans la mine de coltan, eux font de la sculpture. Et ce clash sans but, ce culbut, vouloir être un autre, hein, mais c'est quel but? Ils pensent être les rois du monde. Moi je suis le roi de moi. Si demain c'est la fin du monde, je suis préparé depuis des mois. Et j'ai L-U-T-T-E. J'ai jamais été eux. Qu'ils aillent tous faire têter les yeux dans le miroir et l'unique adversaire.
Malheureusement de vous annoncer qu'on ne pourra pas vous donner des nouvelles de la Commission européenne qui fait n'importe quoi en autorisant toujours plus de surveillance et notamment de reconnaissance faciale. On imagine que la nouvelle sera encore fraîche la semaine prochaine. Malheureusement, c'est le genre de truc où les décisions progressistes sont relativement rares. En attendant, il est 19h57, cette émission va se terminer, mais avant cela, nous avons un appel.
Radio Canu.
Canu Info du vendredi.
Aujourd'hui, ACAB veut dire accès chagriné aux bibliothèques.
Voilà, soutien absolu évidemment aux camarades bibliothécaires qui se battent. Dans quelques secondes, vous avez rendez-vous avec...
Les bandes continues.
Avec les bandes continues, non, pendant quelques secondes. Et puis très très vite évidemment, Noise Pollution, la traditionnelle émission de rap musette de Radio Canu. Pour ce qui nous concerne, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, passez une bonne soirée. À bientôt.
Bisous.
Merci.